Voix Nues. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Virginie Bloch-Lainé rencontre Raoul Peck. Ce soir, une ossature marxienne.
Bonsoir Raoul Peck.
Bonsoir.
Une ossature marxienne, c'est une expression que vous utilisez dans un entretien à propos de votre film « Meurtre à Paco », une fiction sur Haïti, Haïti dévastée après le tremblement de terre de janvier 2010. Et vous dites dans cet entretien que tous vos films ont une ossature marxienne. Vous dites aussi que vous avez deux maîtres, James Baldwin et Marx. Nous parlerons de Baldwin vendredi soir. Ce soir, nous parlerons de votre marxisme. Votre dernier film que vous avez coécrit avec Pascal Bonitzer s'appelle « Le jeune Marx ». Quand avez-vous, Raoul Peck, lu Marx ? Chez les jésuites ou à Berlin ?
Non, chez les jésuites, il était excommunié, donc ce n'est pas possible.
Leur ouverture n'allait
Marx,
pas.
D'abord l'expression marxienne, c'est l'expression que j'ai utilisée, faute de mieux, pour essayer de prendre mes distances avec tous ceux qui ont, à tort ou à raison, utilisé Marx et ses théories, et qui en ont fait ce qu'on sait aussi bien en Europe de l'Ouest que Europe de l'Est.
C'est-à-dire
Par exemple, les partis communistes à l'Ouest et les partis de l'Est, les soi-disant pays communistes de l'Est, qui sont tout sauf s'inspirer de Marx. Et puis, pour aussi faire attention de ne pas rentrer dans un autre dogmatisme, puisque justement, ce qui me séduit dans le travail de Marx, et d'Engels d'ailleurs, c'est cette capacité qu'ils avaient de toujours se remettre en question. Et de ne pas avoir une bonne fois pour toutes la vérité à partir de laquelle on est capable de faire le pire et le meilleur. Donc, et c'est cette capacité que j'ai toujours utilisée toute ma vie de remettre en question les choses, tout en ayant une lecture structurelle du monde autour de vous, puisque c'est ça. Je pense que si on ne comprend pas dans quel monde on vit, c'est difficile de porter un regard critique et même de trouver des solutions pour certains problèmes sans en comprendre vraiment les origines. Donc, pour moi, Marx, c'est la base, puisque ce qu'il fait, c'est d'analyser la société capitaliste dans laquelle on est. On est, pour le coup, aujourd'hui, c'est la planète entière qui fonctionne selon cette société capitaliste, c'est-à-dire une société qui est basée, ou une économie qui est basée sur le profit et sur ce qu'on appelle très pudiquement le marché, mais tout est centré vers la capacité de produire du profit et tout se soumet à cette vision du profit, même à l'absurde, c'est-à-dire on est capable de casser une communauté en fermant une usine sous prétexte que 100 kilomètres plus loin ou à l'étranger, on peut gagner un demi-point à la bourse. Donc c'est cette absurdité que Marx décortique et explique cette espèce de machine aveugle qui renverse tout sur son passage, cette tendance maladive d'accumuler de l'argent. C'est-à-dire il faut quand même se dire que quand 1% des plus riches possèdent plus de 82% des richesses de cette planète, c'est quand même aberrant. Voilà, donc ça dépasse l'entendement. Donc cette absurdité est analysée par Marx et Engels. C'est ce qu'ils font, c'est leur contribution majeure à la compréhension de notre société qui est historiquement déterminée. C'est-à-dire on n'est pas dans un entre-deux, c'est la société capitaliste qui commence avec la révolution industrielle et qui envahit le globe. Et son mode de fonctionnement est universel aujourd'hui. Donc si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne peut pas vraiment amener des réponses, trouver des solutions, voire construire un futur. À Berlin, ce que je fais, puisque à cette époque, on peut étudier Marx à l'université. Et moi, c'est dans ce cadre universitaire que je suis des séminaires sur le capital. Donc voilà, ça s'est fait presque naturellement. Pour moi, ça faisait partie de ma culture générale. simplement d'essayer de ne pas mourir idiot et de comprendre voilà, dans quel monde on vit.
Votre premier film d'ossature marxienne, Raoul Peck, c'est lequel ? Est-ce que le premier long métrage que vous faites, Aishan Corner, a une ossature marxienne ? Ou est-ce que ça va évoluer ? Est-ce que
Peut-être,
l'économie se mondialise, plus on se rapproche d'aujourd'hui, plus vos films ont une ossature marxienne ?
Alors, quand vous dites approche marxienne, c'est-à-dire n'applique pas.
Vous ne collez pas.
Je ne colle pas une théorie à ce que je fais. Simplement, au contraire, justement, et c'est ce qui m'a peut-être sauvé de tout dogmatisme, d'assimiler ces connaissances et puis de les redonner de manière naturelle dans ce que je fais. J'ai pas un cadre, une sorte de matrix par lequel tout passe. Non, c'est simplement une attitude même de vie. De comportement. J'ai eu donc la chance d'apprendre ces choses-là dans un contexte européen. Mais en même temps que je vivais ces combats à Berlin, donc pour la réalité allemande, mais je suivais aussi les mêmes combats dans la réalité du tiers-monde, en Haïti ou ailleurs. Ma solidarité pour les Africains du Sud, pour les Namibiens, pour les Brésiliens, pour donc elle était universelle également. Or, je m'aperçois au fur et à mesure des années que mes compagnons européens, eux, se recroquevillent sur leur réalité nationale et que ce qu'on appelait cette espèce de solidarité avec le tiers-monde était en train de s'effacer.
Dans les années 80.
Dans les années 80-90. Et là, j'ai vu ces combats s'éloigner. Et tous les partis, en particulier de gauche, ont laissé le terrain internationaliste et se sont de plus en plus recroquevillés. Alors ça a pris des formes diverses. Par exemple, beaucoup de ces anciens de gauche sont rentrés dans les partis écologistes. D'autres sont revenus à la social-démocratie ou au Parti socialiste, qui du coup, lui aussi, s'est embourgeoisé. Etc. Donc c'est une tendance qui s'est développée sur une trentaine d'années.
Et pourquoi Raoul Peck y a ce recroquevillement ?
À partir de la crise des années 70, 73, la grande crise pétrolière, la montée du chômage, la rationalisation partout, pas seulement dans les industries, mais aussi dans toutes les institutions d'État, les universités, on coupe les budgets, etc. Tout le monde se retrouve un peu fragilisé. En même temps, ça correspond à une époque où on a de moins en moins honte de l'argent. D'ailleurs, on l'a vu à la montée de Mitterrand au pouvoir, très rapidement, on n'a plus honte de dire qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais ça a des conséquences sur la politique, sur le politique. Je me rappelle très bien, ma génération est la première, ou en tout cas la dernière, qui sortira de l'université en ayant plus de chances de trouver un poste. Après, c'est vraiment... aller à l'université ne veut rien dire. C'est l'époque où on peut avoir un, deux, trois diplômes et être au chômage. Ça commence dans ces années-là. Donc, ça a des conséquences dans la société. On n'a plus le temps de s'occuper des affaires des autres. On peut pas dire en tant que Français ou Britannique que ce qui se passe en Afrique du Sud, on s'en fout, puisque vous profitez de l'exploitation qui se fait dans les mines d'or d'Afrique du Sud, dans les mines de diamants, dans les fabrications de la bombe atomique, etc. Les relations qu'il y a entre les pays européens et l'Afrique du Sud, sur le dos des Noirs et de l'apartheid. Donc, on peut décider de plus voir ça, mais le lien existe encore. Donc, c'est là où je dis, pareil, par rapport à Haïti, je le vois, que beaucoup de partis frères se délaissent des problèmes qu'on a sur place, sur le terrain. Mais pas parce que, par méchanceté, forcément, c'est simplement, ils sont aux aguets par rapport à eux-mêmes, à leur propre survivance chez eux.
Vous avez adhéré, Raoul Peck, au Parti communiste dans un des pays dans lesquels vous avez...
Non, j'ai jamais adhéré à aucun parti. Là, je suis un peu comme Baldwin. Je me méfie des... Je crois profondément à la nécessité de s'organiser. Mais en même temps, en tant qu'artiste, c'est pour moi un danger de rentrer dans une structure, surtout quand je ne peux plus la critiquer de l'intérieur.
Et comme cinéaste, Raoul Peck, est-ce que vous vous inscrivez, constatant ça, à Berlin pendant vos études, vous vous inscrivez dans un courant de cinéaste, et est-ce que vous prenez, vous vous souvenez d'un jour, vous avez pris la décision de faire des films qui s'adaptent à cette situation-là que vous observiez ?
Non, parce que ça ne se passe pas comme ça, justement. Comment vous dire ? Je suis déjà engagé. Je suis engagé dans des batailles, y compris chez moi, dans mon pays, puisque mon idée, c'est qu'à la fin de mes études, je rentre en Haïti. Je termine mes études de cinéma en 85, je crois. Il y a encore la dictature en Haïti. Donc c'est dans cette optique-là que je veux terminer et rentrer. En faisant du cinéma, c'est forcément un cinéma, entre guillemets, militant. Même si ce terme, j'ai pris mes distances avec, parce que ça correspondait à une certaine époque.
Oui.
Dans les années 60, 70, le cinéma militant, qui était un cinéma presque de propagande, qui était, voilà, pour convertir ceux qui sont déjà convertis, c'est le slogan qui était au centre, et pas forcément l'image, le récit, la poésie, le son. D'ailleurs, très souvent, c'était techniquement de mauvaise qualité. Donc moi, je suis héritier de ce cinéma-là, mais en décidant de faire autrement, d'aller au plus près du spectateur, de l'amener différemment à réfléchir, et pas à lui tomber dessus en lui assénant des leçons. Et j'avais pas de modèle à suivre. Donc cette démarche, si vous voulez, elle est mélangée. Elle est jamais. C'était pas. J'ai pas dit je vais faire des films et dans ces films je vais avoir un programme. Non, c'est il y a une envie de cinéma, une envie de récit, et en même temps en tenant compte du cadre dans lequel ce récit s'articule, qu'est-ce qu'il veut dire, et aussi dans quel cadre de combat il s'inscrit.
J'essaie de savoir quel cinéma vous aimiez qui n'était pas
ouais.
Est-ce que c'était des films forcément engagés?
C'est un grand mélange. Pour vous, Godard est engagé, oui. Si Fassbinder est engagé, oui. Mon premier film, Haitian Corner, est très Fassbinderien. Il était probablement l'un des modèles, si j'ai eu des modèles, qui me paraît le plus proche à l'époque. Parce que ce qui m'intéressait chez lui, c'est par exemple comment il traite les corps. Comment cette espèce de recherche du naturalisme dans l'histoire, c'est-à-dire de mettre à plat les choses, d'enlever du cinéma toutes les scories qui recouvrent cette espèce de bonbon sucré que peut être le cinéma. Ça, je l'ai pris de Fassbinder. Il y a pas beaucoup d'expériences qui soient non américaines entre deux personnages noirs à l'écran. Donc je dois l'inventer. Dans un monde qui est différent, qui est ni africain ni américain, mais qui est haïtien, par exemple. Donc, il a fallu que je m'appuie sur des choses, et il y en avait pas beaucoup. Il y avait un peu le cinéma cubain, un peu le cinéma brésilien, un peu le cinéma allemand. Il y a une partie du cinéma allemand qui est très proche de cette réalité du tiers-monde, paradoxalement. J'exploite tout ce que je peux trouver. Parfois dans une cinématographie ou chez un auteur ou dans un film, il n'y a qu'une scène qui m'intéresse ou qu'un aspect du film. Aussi bien, je sais que l'époque des frères Taviani, l'époque de certains films grecs ou italiens. Qui se passait dans le sud de l'Italie. Voilà, c'est des moments où je pouvais, ce même village abandonné en Sicile où un professeur arrive pour enseigner à des enfants et des paysans, ça pourrait être en Haïti.
Sur l'économie et sur le pouvoir, vous faites notamment l'école du pouvoir.
Oui, ça partie. C'est beaucoup plus tard. Oui,
oui c'est assez... Oui. Deux téléfilms.
Oui. De séries télévisées.
Ouais. Et le profit, rien d'autre ?
Oui, qui est un film dans une série pour Arte, qui l'est aussi. Là, c'était une expérience particulière de Thierry Garrel qui demande à quelques réalisateurs de penser un film autour de l'économie et m'aide au lieu de, comme on le fait d'habitude en tant que documentariste, qu'on va sur le terrain et que on extrait son sujet, que là, il fallait partir de ce qu'on pense, qu'on sait déjà de cette société, et de faire le film à partir de là. Donc, moi, j'ai choisi le thème du profit, et je l'ai examiné sur toutes les facettes, et de montrer quelle est sa part centrale dans la société dans laquelle nous vivons. Donc, là aussi, c'était c'était une expérience particulière de faire un cinéma de cette manière, de faire un film documentaire de cette manière.
Et l'école du pouvoir,
L'école du pouvoir est... Donc, c'est Arte qui m'approche pour me proposer de reprendre le projet de Peter Kominski, qui avait fait cette fameuse série sur la montée au pouvoir de Tony Blair. Et il voulait faire l'équivalent pour la France. Simplement, en France, cette tradition n'existait pas. Donc, Peter a travaillé pendant 3 ans à développer le projet, et à un moment donné, ils sont arrivés à un mur, parce qu'ils connaissaient pas suffisamment le monde politique français. Donc, on m'a...
Et la formation des élites.
Et la formation des élites. Même s'ils avaient déjà fait toutes les enquêtes, ils avaient déjà interviewé près d'une centaine d'anciens énarques, toutes promotions confondues. Donc le travail était là, le travail de recherche était là. Simplement, en termes de scénario, ils n'arrivaient pas à... C'est soit ils fictionnalisaient à outrance, et ça perdait de son cachet et de sa force, ou ils étaient un peu bloqués par manque de connaissances, un peu de la réalité historique française. Et même si c'est pas quelque chose qu'on peut rattraper, il faut le connaître, il faut l'avoir vécu. Oui. Si vous me dites Marchais, je suis capable de mettre Marchais à différentes étapes de ma vie et de sa vie. Donc ça me dit quelque chose. Donc j'ai repris le projet en réfléchissant longuement avant, alors que c'était un projet qui était prêt, qui était financé, mais comme tous les projets qu'on m'amène, je ne peux fonctionner que quand j'arrive à en faire mon projet. Et ça, c'est pas forcément évident. Il m'est arrivé de refuser de faire des projets. Et là, ça m'a pris un temps. Je crois que j'ai dû mettre près d'un mois avant de pouvoir dire oui. Et en fait, le déclic s'est fait au moment où je me dis, c'est un film sur le pouvoir. Et à ce moment-là, tout s'est mis en place. Et oui. Ça a été en effet une très belle production que aujourd'hui encore beaucoup de jeunes le revoient, parce que l'apprentissage de devenir citoyen et adulte, puisque ces jeunes qui sont remplis d'ambition, qui vont à l'ENA, à l'origine c'est une idée de service public,
oui.
C'est servir l'État, mais ces jeunes, une fois qu'ils sont sortis, ils sont happés par le monde politique, et d'ailleurs au départ, c'est ça. Et en fait, pour cette promotion Voltaire en particulier, ils arrivent à un moment historique où la gauche monte au pouvoir. Très rapidement, ils sont confrontés à ce pouvoir. Et donc, ils doivent choisir leur camp. Et là, on ne peut plus être innocent. Et le film traite de ce passage à l'acte pour certains et du renoncement pour d'autres.
Raoul Peck, vous présidez la FEMIS. À la FEMIS, il y a des étudiants qui sont plutôt de très bons étudiants, qui rentrent à l'âge de 20 ans.
On demande, en général, c'est très rare qu'il y ait des étudiants de 20 ans ou 21 ans même. Je crois que la moyenne, c'est 22 ou 23 ans.
D'accord.
Alors, il y a des demandes précises pour être candidat, mais en même temps, vu que c'est un recrutement très compétitif, la moyenne est beaucoup plus haute. C'est-à-dire, on demande bac plus 2, mais au final, c'est bac plus 3, voire plus 4. Mais c'est par rapport à la demande, il y a plus de 1200, 1300 candidats chaque année, et on en prend 48 ou 50. Donc la compétition est très... très dur, et voilà.
Qu'est-ce que vous sentez, Raoul Peck ? Alors, vous êtes président depuis 2010.
Ouais.
Est-ce que vous sentez des tendances?
Alors c'est très compliqué parce que d'abord la FEMIS est une grande école comme toutes les grandes écoles, donc les promotions sont différentes. L'école n'est pas totalement exclue de ce qui se passe dans la société. Donc quand on a des moments dans une société où les gens sentent qu'ils ont besoin d'être plus dirigés, ça a un impact à l'école, ou d'autres où ils sentent qu'ils doivent avoir une totale liberté, ça a aussi un impact. Il n'y a pas de génération type. Nous, notre rôle à la FEMIS, c'est de permettre à des jeunes de poursuivre leurs rêves et nous leur donnons les instruments pour ce rêve, mais nous ne leur disons pas vers quoi ils doivent aller. Oui. Donc au contraire, on reste le plus ouvert possible. Tous nos étudiants ne font pas des films d'auteur et on les retrouve à tous les postes.
Oui, production, des postes techniques,
à la télévision parfois, dans des postes administratifs aussi, producteurs, puisque on forme à plus de 11 métiers. Et tout ce qu'il y a comme métier intermédiaire. Donc quand ils sortent de l'école, c'est là que commence leur vraie carrière. Et alors pour vous dire, chaque année, on fait des statistiques. À Cannes, on a plus de 150 anciens étudiants de la FEMIS dans tous les génériques des films qui sont à Cannes. Donc c'est une très grande place. Donc ce qu'on fait, on fabrique des rôles qui sont capables de s'adapter à beaucoup de métiers différents. Et puisque dans leur formation, ils choisissent au départ s'ils veulent devenir réalisateurs, scénaristes, producteurs, ingénieurs du son, ingénieurs de la photo, etc., directeurs de la photo. Mais au final, quand ils sortent, ils font ce qu'ils veulent, puisque à l'intérieur de l'école, ils sont formés à tous ces différents métiers. Celui qui veut devenir réalisateur, à un moment donné de son parcours, il fait la caméra, il fait le son, il sort avec un scénario, donc il doit écrire un scénario de long métrage pour son diplôme de sortie, etc., etc. Donc, ils ont une formation multiple. Et la chose aussi particulière qui est importante, ils apprennent à travailler en groupe. Donc, ils ont une formation qui leur permet de rentrer dans tous les milieux, à tous les métiers, à tous les niveaux.
Qu'est-ce que vous aimez, c'est ma dernière question, Raoul Peck, pour ce soir. Qu'est-ce que vous aimez comme réalisateur plutôt jeune en ce moment? C'est difficile parce que si ce sont des anciens de la FEMIS.
Non, on est assez fiers. Par exemple, l'année dernière à Cannes, on a eu pratiquement 4 films qui ont été récompensés d'anciens élèves de la FEMIS, notamment Petit Paysan qui est encore à l'affiche en ce moment. Et ça reflète aussi le parcours ou plutôt la diversité à l'intérieur de l'école. Parce qu'on pense souvent que c'est une école simplement élitiste ou élitaire, alors que plus de 60% de nos étudiants viennent du reste de la France. C'est pas une école parisienne.
Ce sont de très bons élèves.
De très bons élèves.
Qui viennent de partout.
Et qui viennent de partout et qui ont, par exemple, on a près de plus de 30% de boursiers. Donc ça veut dire que c'est une diversité sociale, une diversité territoriale et une diversité de culture aussi. Donc c'est ça qui fait
l'homogénéité, la force elle est dans le niveau en fait, dans la
l'homogénéité paradoxalement elle se fait à l'extérieur. On a plus de 50% de femmes année après année. Or quand on passe à l'industrie du cinéma français, on retombe à 15 ou 20% de femmes. C'est là où se situe le problème. Donc on a un programme de diversité par exemple, c'est-à-dire chaque année, 2 fois par an, on a des équipes qui vont dans des écoles, donc qui forment, il y a des séminaires de 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, avec des jeunes, pour leur dire, voilà, la FEMIS existe, il y a ce qu'on appelle les études de cinéma, voilà ce qu'il faut faire pour y adhérer, ils font des exercices, ils s'approprient les instruments. Et ben, depuis 2-3 années, régulièrement, dans les 48 qui rentrent à l'école, il y en a 2 ou 3 qui proviennent de ce programme. Ça veut dire qu'ils passent le même examen que ceux qui ont fait des grandes écoles parisiennes, et ils sont admis selon les mêmes critères. Donc ça, par exemple, ce sont des programmes qui fonctionnent. Cette année, je crois qu'on en a eu 3 qui sont rentrés à l'examen. Et donc, c'est, en termes de pourcentage, c'est beaucoup. Et c'est formidable. Donc, au niveau de diversité, la FEMIS prend ses responsabilités. Par contre, du côté de l'industrie, c'est là que se situent les problèmes. Et on ne peut pas dire qu'on retrouve cette diversité dans le cinéma français.
Vous ne voulez pas me donner, Raoul Peck, le nom de 2-3 films que vous avez beaucoup aimés dans les 2 dernières années là.
Oh, waouh. Non, là vraiment...
Tony Erdmann.
Oui, mais ce n'est pas mon préféré. Alors, le Fils de Saul, oui, si,
ah,
un
voilà,
film
ouais, de Nemes.
Voilà, sans retenue, voilà, c'est que je place très haut dans ce qu'il a réussi à faire, qui est...
Un Hongrois,
qui est,
ouais, jeune, ouais, assez jeune, ouais.
Et qui est, voilà, qui est incroyable, c'est le genre de film qu'on peut faire qu'une fois dans sa vie, et qui implique tout, c'est-à-dire pas seulement un récit, pas seulement un sujet, mais aussi la manière de le filmer, ce qu'il a fallu comme instrument mécanique pour le faire, etc. Donc c'est vraiment une réussite formidable, et que c'est un film qu'on voit en dehors du cinéma. Et j'adore ces films qui sont inclassables. Et qui ne, voilà, que c'est pas une question de quelle récompense, est-ce que ça a eu un succès en salle, tout ça on s'en fout.
C'est un film
qui existe comme Shoah, qui a un film, voilà, qui y a rien à dire, c'est un monument et il existe.
Et le Fils de Saul se passe dans un camp d'extermination.
Absolument. Et du point de vue de prisonnier, de voilà. Et c'est incroyable. Voilà. Donc il y a très peu, voilà, c'est, pour moi le cinéma c'est ça. Aussi, je n'ai rien contre le cinéma commercial, le cinéma de divertissement, mais ça ne peut pas être que ça au cinéma. Le cinéma, c'est un instrument, c'est un art qui a beaucoup de palettes différentes, et il faut que tout le monde ait sa place. Un cinéma plus féminin, un cinéma plus diversifié, un cinéma plus politique, un cinéma de divertissement également. On peut faire des films avec des effets spéciaux, etc., mais comme tout citoyen, j'ai envie de voir la diversité du monde et la richesse du monde sur les grands écrans.
Merci Raoul Peck.
Merci.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lainé avec Raoul Peck. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Andreas Jaffré, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.